Lawal.
Merci Élise.
Programme, c'est fini. On se retrouve lundi prochain pour le même plaisir. Au revoir.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, bienvenue dans cette édition du 20 juillet 2020. Nathalie Barge à la présentation, voici les titres. La direction du RHDP en Côte d'Ivoire souhaite qu'Alassane Ouattara soit candidat à la présidentielle d'octobre. En Guinée, un jeune a été blessé par balle à Conakry lors de la reprise des manifestations contre un éventuel troisième mandat du président Alpha Condé. Nouvelle manifestation au Mali au lendemain de l'échec de la médiation de la CEDEAO. À Khartoum, l'ex-président Omar El-Béchir comparaît mardi devant la justice pour le coup d'État de 1989. Covid-19, plus de 14,5 millions d'infections et 600 000 morts dans le monde. La pandémie progresse aux États-Unis avec 60 000 cas en 24 heures. Juste après le journal, ce sera l'actualité économique et les sports. En Côte d'Ivoire, le secrétaire exécutif du RHDP, Adama Bictogo, soutient publiquement la candidature à un troisième mandat d'Alassane Ouattara. Le point avec Abdourahman Dia.
Adama Bictogo, le secrétaire exécutif du RHDP, a déclaré qu'Alassane Ouattara était le choix de la majorité des militants et que sa candidature était la solution à ce stade. Il a indiqué que l'intéressé devrait lui-même annoncer sa décision dans les prochains jours. Bictogo pense qu'une candidature du président épargnerait au parti une bataille de succession, même s'il précise que le dernier mot revient à Alassane Ouattara. Il avait décidé de ne pas se représenter en 2020 et avait choisi son premier ministre Amadou Gon Coulibaly pour être le candidat du parti au pouvoir. Mais la mort de Gon Coulibaly le 8 juillet a relancé le débat sur une éventuelle candidature de M. Ouattara, qui a fait adopter une nouvelle constitution en 2016. S'il se présente, il devra faire face à son ex-allié au sein du RHDP, Henri Colombédié, qui a dirigé la Côte d'Ivoire de 1993 à 1999.
En Guinée, des heurts entre manifestants et forces de l'ordre ont eu lieu ce lundi à Conakry lors d'une reprise de la mobilisation contre un éventuel troisième mandat du président Alpha Condé. Un homme de 22 ans a été blessé par balle dans le quartier Amdalaï, fief de l'opposition. Les manifestations avaient cessé depuis 3 mois à cause de la pandémie de Covid-19. Au Mali, des manifestations ont eu lieu à Bamako ce lundi avec des barricades et des pneus brûlés sur les voies principales qui ont paralysé l'administration. Ces manifestations se sont tenues au lendemain d'une médiation de la CEDEAO dont les recommandations n'ont pas été acceptées par le M5-RFP qui maintient toujours la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta. Le point avec Kassim Traoré.
La désobéissance civile a été relativement respectée. Certains jeunes disent ne faire qu'exécuter les décisions prises par le comité stratégique du M5-RFP. Ils ont brûlé des pneus, dressé des barricades. Les agents de police étant absents, c'est eux qui géraient la circulation au niveau du rond-point de Daoudabougou. Lamine Diarra, point focal M5-RFP à Daoudabougou.
La motivation de ce matin, c'est appliquer la désobéissance civile sur toute l'étendue du territoire et demander à nos jeunes de sortir massivement.
Les 3 points de Bamako étaient accessibles, les forces de l'ordre y veillaient, mais la circulation était très lente. À Kati, les jeunes ont occupé les voies et fermé les services publics sauf l'hôpital et les pharmacies. À l'intérieur du pays, dans les villes comme Ségou et Sikasso, les entrées étaient bloquées avec des véhicules aux arrêts. Ces manifestations font suite à une médiation de la CEDEAO dont les recommandations ont été rejetées par les M5-RFP. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Des pirates ont kidnappé 13 membres d'équipage ukrainien et russe d'un navire pétrolier au large de la côte du Bénin vendredi. Selon la compagnie grecque à laquelle le bateau appartient, le MV Curaçao Trader est à la dérive avec peu de personne à son bord. Elle a indiqué qu'aucun effort ne serait épargné pour obtenir la libération des membres d'équipage enlevés, vraisemblablement par des groupes armés originaires du sud du Nigeria. En République démocratique du Congo, 16 morts, dont 9 enfants et 5 blessés dans un accident de camion qui s'est renversé dans la nuit de samedi à dimanche près de Kamalenge sur l'axe Kalemie-Lubumbashi. Les ministres provinciaux des Transports et de la Santé se sont rendus dimanche sur les lieux du drame. Tout porte à croire que le véhicule qui transportait des marchandises du PAM a embarqué frauduleusement des passagers après le péage de Lufungwe. Au Soudan, l'ex-président Omar el-Béchir comparaît ce mardi devant la justice à Khartoum pour le coup d'État de 1989 contre le gouvernement du Premier ministre Sadek al-Mahdi. Nani Talani.
Omar el-Béchir sera dans le box des accusés avec 10 autres militaires et 6 civils, dont ses anciens vice-présidents Ali Osman Taha et le général Bakri Hassan Saleh. Après une instruction du procureur, il sera jugé par une cour spéciale composée de 3 juges. Cependant, il y aura un grand absent à ce procès, l'islamiste Hassan Tourabi qui est mort en 2016. Il s'agit d'une affaire inédite dans le monde arabe, car jamais l'auteur d'un putsch réussi n'a été traduit en justice. Pour la défense, il s'agit d'un procès politique qui va se dérouler dans un environnement hostile aux accusés pour des faits qui se sont déroulés il y a plus de 20 ans. Parallèlement, la défense met en avant le bilan politique d'Omar el-Béchir, qui a signé plusieurs accords de paix. Quant à Mouaz Hadra, un des avocats à l'origine de la procédure, ce procès est un avertissement à toute personne qui essaiera de détruire le système constitutionnel. Le pays a connu 3 coups d'État depuis son indépendance. Le dernier est celui d'Omar el-Béchir le 30 juin 1989. Resté au pouvoir pendant 30 ans, il a été renversé le 11 avril 2019 après un mouvement de contestation populaire.
La police du Zimbabwe a arrêté un opposant et un journaliste dénonçant la corruption étatique. Jacob Ngarivume et Opuel Chinono ont été interpellés à leur domicile, a déclaré l'Association des avocats zimbabwéens des droits humains. L'ambassade des États-Unis à Harare s'est dite très inquiète du sort de Opuel Chinono, un documentariste qui a travaillé pour plusieurs organisations de presse internationales. Au Malawi, 7 Chinois et 2 Africains reconnus coupables de trafic de défense d'éléphants, de cornes de rhinocéros et d'écailles de pangolins ont été condamnés à des peines de prison de 18 mois à 11 ans. Les 9 condamnés avaient été arrêtés en 2019 à la suite d'une action coordonnée de la police et du département de la faune sauvage. Les députés égyptiens ont approuvé une intervention armée en Libye si les forces du GNA continuent leur avancée vers l'est. La Chambre a approuvé à l'unanimité l'envoi d'éléments de l'armée égyptienne dans des missions de combat pour défendre la sécurité nationale égyptienne, a indiqué le Parlement. Par ailleurs, le président Abdel Fattah al-Sissi s'est entretenu sur la crise libyenne avec son homologue américain Donald Trump.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La pandémie de Covid-19 continue de se propager dans le monde avec plus de 14,5 millions d'infections et 606 000 morts. Elle progresse à vive allure aux États-Unis avec 60 000 cas en 24 heures. Claire Morin-Gibourg.
L'Afrique du Sud, pays le plus touché du continent, a passé la barre des 5000 morts. Le Soudan a besoin d'une aide urgente de 283 millions de dollars. Le Maroc a allégé ses mesures restrictives et les établissements touristiques peuvent à nouveau utiliser leur capacité d'accueil. La flambée des cas continue aux États-Unis avec plus de 60 000 cas en 24 heures. Dans une interview hier, le président Donald Trump a réitéré que le virus finirait par disparaître. En France, 4 mois après avoir été jugé inutile par les autorités, le port du masque est obligatoire dans les lieux publics clos. Enfin, la Chine, premier pays touché par le virus fin 2019, a réouvert ses cinémas aujourd'hui, mais seulement à 30% de leur capacité. 2 projets de vaccins contre le Covid-19, un britannique et un chinois, ont produit une réponse immunitaire importante et démontré leur sûreté pour les patients.
Le président tchétchène Ramzan Kadyrov n'est plus autorisé à entrer sur le territoire américain. Washington l'accusant de violation grave des droits humains dans son pays, a déclaré le chef de la diplomatie Mike Pompeo. Des demandes de visa de son épouse et leurs deux filles seront également refusées. Plusieurs dissidents tchétchènes ont été assassinés ces derniers mois en Europe, notamment en Autriche, en France et en Suède. L'armée ukrainienne a entamé des manœuvres navales en mer Noire avec les États-Unis, auxquelles participent également d'autres pays de l'OTAN. L'opération militaire Sea Breeze réunit 26 navires de 8 pays. Ils se limiteront à des entraînements en haute mer et dans les airs pour cause de restrictions dues au coronavirus. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée par John Lyndon.
La Sénégalaise Diarrieto Gueye va occuper le poste de vice-présidente et secrétaire générale de la Banque mondiale à partir du 1er septembre 2020. À la Banque mondiale, depuis 24 ans, Diarrieto Gueye occupait précédemment les fonctions de directrice de la stratégie et des opérations de la Banque mondiale pour la région de l'Afrique orientale et australe basée à Nairobi. Auparavant, elle a été patronne de la Banque mondiale au Sri Lanka et au Bénin. Les 8 candidats en lice pour la course au poste de directeur général de l'Organisation mondiale du commerce ont tous passé leur oral devant les 164 membres de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce. Parmi ces 8 candidats figurent 3 Africains, notamment l'Égyptien Abdel Hamid Mamdou, Amina Mohamed du Kenya et Ngozi Okonjo-Iweala du Nigeria. Le poste de directeur général de l'OMC est vacant suite à la démission surprise du Brésilien Roberto Azevedo. Plus de 68 millions de clients et un chiffre d'affaires en hausse de 2,7% à la fin du mois de juin. Ce sont là les performances de Maroc Telecom. Selon La Vie Éco, cette hausse provient en partie de l'intégration de Tigo Tchad dans le périmètre du groupe, explique Maroc Telecom dans un communiqué.
À présent, les sports présentés par Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. Le Ballon d'Or ne sera pas attribué en 2020 à cause d'une saison bouleversée par la pandémie de Covid-19. L'hebdomadaire France Football, initiateur du Ballon d'Or, justifie cette décision par l'équité qui prévaut pour ce titre honorifique qui ne pourrait être préservé, notamment au niveau statistique et également de la préparation, puisque tous les aspirants à la récompense ne pourrait pas être logé à la même enseigne, affirme le rédacteur en chef de France Football, Pascal Ferré. L'Argentin Lionel Messi et l'Américaine Megan Rapinoe, sacrée en 2019, n'auront donc pas de successeurs cette année. C'est la première fois depuis 1956 que le Ballon d'Or va faire une pause. Et puis, Liverpool FC de Sadio Mané, Naby Keïta, Mohamed Salah et Joël Matip a signé un partenariat avec l'autorité mauricienne de promotion du tourisme. Cet accord entre l'île Maurice et les Raids va durer 3 ans et permettra à ce pays de bénéficier d'une gamme d'actifs numériques, de médias sociaux et de marketing de Liverpool. Il s'agit d'un partenariat passionnant et nous sommes ravis de renforcer notre relation existante avec Maurice après l'ouverture de la Liverpool FC International Academy sur l'île en juillet 2019, a soutenu Billy Hogan, directeur général de Liverpool. D'après Pravin Kumar Jugno, premier ministre mauricien, l'île Maurice est fière d'être partenaire officiel de Liverpool, une des meilleures équipes du monde et champion d'Angleterre en titre. En Afrique du Sud, Siya Kolisi, premier capitaine noir de l'équipe de rugby, champion du monde 2019, estime qu'il est temps de changer de comportement vis-à-vis des Noirs. Quand je suis arrivé chez les Springboks, tout se faisait en Afrikaans. Entendez, langue des descendants des colons blancs et je ne pouvais pas du tout parler Afrikaans. C'était très dur, a-t-il expliqué dans une vidéo postée sur son compte Instagram. Pendant le régime de l'apartheid, la minorité blanche s'était approprié le rugby comme son sport. Mais depuis l'avènement de la démocratie, la transformation raciale des Springboks s'est faite à marche forcée, à coup de quota imposé par le gouvernement. En basketball, l'association des joueurs de la NBA va s'associer avec la marque du vêtement de Russell Westbrook pour concevoir des t-shirts comportant des messages de justice sociale pour la reprise du championnat de NBA prévu le 30 juillet à Disney World en Floride. La Ligue a autorisé les joueurs à porter des messages parmi une liste d'une trentaine de slogans tels que « Black Lives Matter », « Je ne peux pas respirer », »,« Justice, paix, égalité, liberté » ou encore « Antiraciste ». Mais plusieurs joueurs ont exprimé leur frustration à propos de cette liste, comme LeBron James qui a choisi de conserver son nom sur son maillot. D'autres joueurs ont critiqué le fait que la liste n'inclut pas les noms de victimes de violences policières ou que la Ligue ait refusé des expressions telles que « réforme de la police » ou « suis-je le prochain ?».
Merci beaucoup Yacouba pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Nathalie Barge pour vous présenter cette édition. Maintenant, les dossiers du jour. La médiation ouest-africaine venue chercher une solution à la crise politique au Mali a avoué dimanche que ses propositions n'ont pas été acceptées par le mouvement de contestation. La délégation conduite par l'ancien président nigérian Goodluck Jonathan avait proposé la formation d'un gouvernement d'union nationale et une nouvelle cour constitutionnelle. Elle n'a pas convaincu les opposants qui sont redescendus dans les rues ce lundi. Bagassi Koura a joint à Bamako Maliki Diallo, journaliste à l'indicateur du Renouveau.
Le mouvement du 5 juin estime que les propositions faites par Goodluck Jonathan et la délégation de la CDAO ne prend pas largement en compte ses préoccupations. Vous n'êtes pas sans savoir que le mouvement du 5 juin réclame le départ du président de la République, le départ des membres de la Cour constitutionnelle et aussi la dissolution de l'Assemblée nationale. Pour l'instant, le président quand même a pris la décision de dissoudre la Cour constitutionnelle. Mais pour l'instant, l'Assemblée reste intacte. La délégation de la CDAO est pour l'organisation des élections partielles dans les circonscriptions où les résultats des dernières législatives qui datent d'avril 2020 sont contestés. Mais pour l'instant, la CDAO ne propose pas la dissolution de l'Assemblée nationale.
Quand la CDAO ou certains partenaires internationaux disent qu'il n'est pas question d'un changement non constitutionnel du pouvoir, qu'est-ce que vous en dites?
C'est très normal de la part de la CDAO et de la communauté internationale, mais la réalité c'est sur le terrain aussi. Moi je pense qu'il faut vraiment engager de véritables négociations avec le mouvement M5 et voir si le président entre guillemets ne peut pas démissionner. C'est clair, ils avaient même renoncé à cela dans leur mémorandum, mais que le président aussi essaye et la communauté internationale de voir réellement la position de l'Assemblée nationale, mais surtout la formation d'un gouvernement. Goodluck Jonathan propose un gouvernement avec 50% des ministres nommé par le président de la République, 30% est proposé par le mouvement du 5 juin et 20% par la société civile. Ça ne passe pas chez M5 qui réclame le poste du premier ministre et ce premier ministre doit nommer aussi les membres du gouvernement. Je pense que les négociations sont toujours possibles, surtout entre Maliens eux-mêmes. Si la CDAO a échoué, il faut que la société civile malienne, qui n'est pas du tout pour un temps, réengage le dialogue entre les différentes tendances. C'est aussi un peu compliqué au Mali, puisque la plupart des organisations de la société civile sont soit avec le mouvement M5, soit avec le régime. C'est ce qui est un peu compliqué aussi, cela.
Donc pour vous, après l'échec de la CDAO, il est préférable que les négociations soient menées à l'interne avec purement des acteurs maliens?
C'est ce que je pense. 100% négociations 100% maliens, parce que c'est un problème interne. Il faut que la société civile malienne s'implique dans la résolution de cette crise politique et de société.
Maliki Diallo est journaliste à l'indicateur du Renouveau au Mali.
Restez avec nous à Bamako au Mali sur le 102 FM CVO Afrique 24h sur 24.
En Centrafrique, alors que le recensement électoral arrive à terme dans la capitale Bangui, on note une faible mobilisation des femmes. Cette situation inquiète les organisations qui œuvrent pour une participation massive des femmes au processus électoral. Le point avec le correspondant de VOA Afrique, Freeman Sipila.
Selon le calendrier publié par l'Autorité nationale des élections, ANE, le recensement électoral prend fin officiellement ce 20 juillet à Bangui. Lancé le 30 juin dernier, cette opération connaît une très faible participation des femmes. Faible engouement déjà remarqué par Marie-Madeleine Kouy-Ornaer, présidente de l'Autorité nationale des élections, une semaine seulement après le début de l'enrôlement.
Du 30 juin au 7 juillet, nous avons pu recenser près de 54 000 personnes dans les 8 arrondissements de Bangui. Selon les données que nous avons ici, ce sont les hommes qui se sont fait beaucoup plus enregistrer. Le taux de participation des femmes est encore très faible. Il représente moins de 30%. Je pense qu'il faut faire un travail de sensibilisation auprès des femmes.
Plusieurs facteurs expliquent ce faible engouement des femmes. D'abord, les présenteurs socioculturels. Ensuite, la perte des documents d'état civil durant la crise sécuritaire que le pays a connue. Enfin, la déception due à la mauvaise gestion politique. Pour l'ancien président François Bozizé, le refus de s'inscrire sur la liste électorale n'est pas la solution au problème du pays.
C'est un devoir de tout citoyen et tout citoyen doit s'y conformer. Je souhaite que les Centrafricains, Centrafricaines puissent venir massivement s'inscrire sur la liste électorale. Effectivement, il y a des manquements sérieux dans l'organisation des travaux de ces élections, mais l'ANE semble être dépassée puisqu'il y a des dysfonctionnements que nous constatons toujours et j'ai fait même une déclaration pour pouvoir dénoncer cela. Je pense que avec le temps, ils pourront rattraper toutes les erreurs qu'ils ont encaissées jusque-là.
Face à ce faible taux d'inscription des femmes sur la liste électorale, le réseau pour le leadership féminin en Centrafrique sort du silence. Il appelle à une forte mobilisation des femmes sur l'ensemble du pays. Lina Ekomo, sa présidente.
À toutes les femmes et à toutes les jeunes filles âgées de plus de 18 ans dans notre pays, qu'elles soient à Bangui ou dans l'arrière-pays, elles sont toutes concernées par l'enrôlement. Le vote est un devoir citoyen. Elles ont le droit de s'exprimer sur le choix des personnes qui vont diriger notre pays. Et ce moment, cette période d'enrôlement est cruciale. Celles qui ne seront pas enrôlées ne pourront pas jouir de leur droit de vote. C'est important qu'elles se rendent massivement dans les bureaux d'enrôlement pour se faire inscrire sur les listes électorales.
Cette opération de recensement électoral qui tente à sa fin à Bangui va se poursuivre dans les autres régions du pays. Depuis l'amorce du processus électoral en Centrafrique, plusieurs initiatives sont lancées pour susciter une participation massive des femmes candidates aux prochaines élections. Pour une forte représentation féminine dans les instances de prise de décision, les femmes sont appelées à voter pour les femmes. Freeman Sipila, Bangui, pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Bangui, c'est sur 101.7 FM en République centrafricaine.
Aux États-Unis, les infections et décès dus au coronavirus continuent d'augmenter. Les autorités sont parfois obligées de prendre des mesures qu'elles avaient rejetées auparavant. Marcus Harton, de La Voix de l'Amérique, fait le point. Le récit est de Lionel Gaïma.
La Californie, fortement touchée, a décidé de faire marche arrière sur le confinement. Premier État américain à imposer le confinement général en mars, le gouverneur Gavin Newsom a décidé lundi dernier de fermer tous les bars, restaurants, cinémas, zoos et aquariums sur l'ensemble de la Californie. En Floride, la police de Miami Beach a imposé un nouveau couvre-feu samedi soir. Ernesto Rodriguez est porte-parole de la police.
Nous espérons qu'en fermant plus tôt, cela va diminuer les fêtes et permettre aux gens de rentrer chez eux, retourner dans leurs hôtels et éventuellement protéger tout le monde autour d'eux et protéger notre ville.
La démocrate Donna Shalala, représentante de Miami Beach au Congrès américain, appelle à une action encore plus radicale pour stopper la propagation.
C'est totalement hors de contrôle. Nous devons fermer la Floride. Nous avons demandé au gouverneur d'en faire. Et nous lui avons même demandé de faire la chose la plus simple, à savoir exiger le port du masque à tout le monde. Mais il ne l'a pas fait.
L'explosion du nombre de cas a contraint d'autres gouverneurs à reviser leur position sur le port de masque. Asa Hutchinson, gouverneur républicain de l'Arkansas.
Nous avons franchi une autre étape en essayant
instituant le port du masque obligatoire à l'échelle de l'État. Ce que je ne voulais pas faire, mais c'est quelque chose que tout le monde peut faire pour soulager la pression sur nos hôpitaux, pour nous donner l'espoir de faire baisser le nombre de cas.
Le président Donald Trump a déclaré qu'il ne va pas ordonner le port de masque dans tout le pays. Dans une interview exclusive sur Fox News dimanche, il a cité des conseils contradictoires qu'il a reçus sur les masques au début de la pandémie.
Tout le monde disait de ne pas porter de masque. Eh bien, d'un coup, tout le monde doit porter un masque. Et comme vous le savez, les masques causent aussi des problèmes. Cela dit, je suis partisan du masque. Je pense que les masques sont bons, mais je laisse le choix au gouverneur.
Pour faire face aux conséquences économiques catastrophiques, le Congrès se penche cette semaine sur un autre programme de relance. Les législateurs sont sous pression d'agir vite avant les vacances du mois d'août, dans seulement quelques jours.
Abdourahmane Dia avec vous. Cette semaine dans Washington Forum, Alassane Ouattara sera-t-il candidat à un troisième mandat? Le débat est relancé après la mort du premier ministre Amadou Koulibaly, qui était choisi pour défendre les couleurs du RHDP à la présidentielle d'octobre. Ce, au sein de son parti, qui se prononce en faveur de sa candidature, estime que cela éviterait une bataille de succession. S'il se présente, il fera face à l'ancien président Henri Konan Bédié. Rendez-vous jeudi 23 juillet à 19h temps universel sur VOA Afrique et voafrique.com.
C'est la fin de cette édition. Un grand merci à toute l'équipe de la production pour la technique. À la présentation, c'était Nathalie Barge. Merci beaucoup d'avoir suivi Le Monde Aujourd'hui. Vous pouvez réécouter cette émission sur voafrique.com. Très bonne soirée à toutes et à tous et bon courage.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Le 24 juin, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a annoncé que le programme Prime pour la justice du département faisait passer de 5 à 10 millions de dollars sa prime pour toute information menant à l'identification ou à la localisation dans tout pays du nouveau dirigeant du groupe État islamique, Amir Mohammad Saïd Abdelrahman Al-Mawlah. Al-Mawlah, aussi connu sous les noms de Haji Abdullah, Abdul Amir Mohammad Saïd Salbi et Abu Omar Al-Turkoumani, a été identifié comme terroriste mondial spécialement désigné le 17 mars 2020. Cette identification interdit à tout citoyen américain d'avoir affaire au leader terroriste et gèle tout son patrimoine et ses intérêts qui seraient sous juridiction américaine. La nouvelle prime, jusqu'à 10 millions de dollars, est le double de l'offre initiale de 5 millions de dollars annoncée en août 2019, a fait savoir Todd Brown, directeur du service de sécurité diplomatique. Al-Mawlah, aussi connu sous les noms de Haji Abdullah et Abu Omar Al-Turmani, a succédé à Abu Bakr al-Baghdadi comme leader du groupe État islamique suite à la mort de Baghdadi dans un raid américain en octobre 2019. Al-Mawlah a aidé à mener et justifier l'enlèvement, le massacre et le trafic des membres de la minorité religieuse des Yézidis dans le nord-ouest de l'Irak, de même qu'il a supervisé les opérations du groupe dans le monde. Le directeur Brown a noté que l'annonce de la nouvelle prime démontre la détermination des États-Unis à faire usage de tous leurs moyens pour contrer le terrorisme et tenir le groupe État islamique et ses leaders responsables de leurs actes. Alors que nous œuvrons pour consolider la défaite du groupe État islamique en Irak et en Syrie, nous restons déterminés à identifier et trouver les leaders du groupe pour que la coalition mondiale pour défaire le groupe État islamique et nos partenaires sur le terrain en Irak et en Syrie peuvent continuer de cibler les restes du groupe État islamique et contrer ses ambitions dans le monde. Les États-Unis demeurent engagés à pérenniser la défaite du groupe État islamique, quel que soit le dirigeant de cette organisation. a dit l'ambassadeur Nathan Sell, coordinateur du bureau du contre-terrorisme du département d'État et principal conseiller du secrétaire d'État pour les affaires internationales de contre-terrorisme. Tout comme les prédécesseurs d'Al-Maoula l'ont appris à la dure, les États-Unis et leurs partenaires n'hésiteront pas à faire ce qui est nécessaire pour protéger leur territoire, leur peuple et leurs intérêts. Si vous avez des informations concernant Amir Mohamed Saïd Abdelrahman Al-Maoula, vous êtes prié de contacter le site Reward for Justice à www.rewardforjustice.net. Email info@rewardsforjustice.net pour le bureau régional de la sécurité de l'ambassade américaine ou le consulat le plus proche. Toute information sera traitée de manière confidentielle.
C'était un éditorial reflétant.